Belle soirée à tous.
Il est 23h.
Parlons vrai.
Cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes.
14h-16h, Brigitte Lahaye, Sud Radio.
Bonjour à tous, nous sommes ensemble durant ces deux heures sur Sud Radio. Tu ne penses qu'à ça. Voilà bien une réflexion qui ne veut rien dire et qui pourtant est très souvent utilisée. C'est les femmes souvent qui l'entendent, hein. Les femmes qui vivent avec un partenaire qui veut très souvent, trop souvent en tout cas à leur goût à elles, faire l'amour. Il paraît que l'homme pense au sexe presque toutes les minutes. Faudrait-il encore s'entendre sur ce que signifie penser au sexe? Et puisque c'est que l'homme, parce que ça voudrait dire que la femme n'y pense peut-être pas. En tout cas, avec Samuel Doc, qui est psychanalyste, on verra si le sexe est si souvent présent dans nos esprits et quelle est la différence entre le sexe et la libido. Vous savez que j'aime bien ce terme libido, mais c'est un terme très psy en fait. Hein. En tout cas, je pense que nous sommes tous avec une libido présente, même si chez certains, cela se traduit par du sexe, et pour d'autres, ça peut passer par d'autres circuits. On verra d'ailleurs par quel circuit ça peut passer avec Samuel Doc. Toutes ces explications, c'est dans un instant, mais en tout cas, si vous avez envie de témoigner, soit parce que vous ne pensez qu'à ça, soit parce que vous aimeriez savoir comment calmer votre partenaire, eh bien n'hésitez pas à nous rejoindre. Vous connaissez notre numéro 0826 300 300. Bonjour Samuel Doc.
Bonjour Brigitte.
Alors évidemment, comme tout psychanalyste, vous connaissez bien cette expression. Peut-être qu'on peut conseiller votre livre « Éloge indocile de la psychanalyse » qui était sorti aux éditions Philippe Ray, dans lequel vous parlez de sexualité, de libido. Alors, votre éclairage, qu'est-ce que vous dites? Est-ce qu'on ne pense qu'à ça d'abord?
Alors, dans le sens freudien, bien sûr, on y pense beaucoup. Et j'ai beaucoup apprécié que dans votre introduction, vous disiez « mais sous quelle forme ?» Parce que parfois, nous pouvons penser à des choses qui ont l'air d'être complètement coupées du sexuel, alors qu'en réalité, c'est bien notre vie psychique libidinale, pour reprendre votre terme, qui irrigue nos constructions psychiques. Alors, je vais essayer d'être un peu plus clair. Pour Freud, pour la psychanalyse, la libido, c'est l'énergie psychique, c'est ce qui irrigue toutes nos créations, tous nos actes, tous nos gestes, et celle-ci est plutôt des sens sexuels. Alors, est-ce que ça veut dire que Freud lui-même était obsédé sexuel? Pas du tout. Ça veut dire qu'il avait identifié en l'être humain une tendance, un instinct de l'humanité à nous lier, à chercher à construire des ensembles sociaux toujours plus grands, à rencontrer l'autre, et qui est au cœur, selon lui, de notre espèce. Nous cherchons à nous lier. Voilà ce qu'il faut entendre dans cette psychosexualité. Et puis, ce qu'il voulait aussi dire en parlant des pulsions de vie et des pulsions de mort, c'est que nous recherchons le plaisir. Mais pour lui, tout plaisir a une origine psychosexuelle. Par exemple, lorsque un nourrisson est tout petit, qui va découvrir le monde par la bouche parce qu'il va avoir besoin de l'aliment pour être nourri par le sein maternel, il va avoir un plaisir à téter et découvrir ces plaisirs de bouche qu'on retrouvera tout au long de la vie à travers le baiser, à travers l'oralité, à travers
le chewing-gum, la cigarette, exactement.
Et c'est ça qui est
boisson,
psychosexuel.
Oui,
exactement.
Oui. En fait, c'est le plaisir des sens, au sens large du terme, et bien sûr, évidemment, aussi le plaisir génital, qui est quand même un plaisir intense. Enfin, je veux dire, mais est-ce que vous pensez que l'homme, et non pas la femme, est plus dans la pensée sexuelle? Parce que il y a des chercheurs qui considèrent que le sexe que l'homme pense au sexe pratiquement tout le temps.
Oui, c'est vrai, mais moi je m'interroge parce que j'écoute régulièrement votre émission, indépendamment du fait que j'y intervienne, et je suis toujours étonné. Je ne sais pas si nos auditeurs aujourd'hui répondront là-dessus, mais on donne peu la parole aux femmes en définitive sur leur désir sexuel. Il y a quelque chose d'extrêmement masculin, et je trouve que vous, avec cette émission, vous faites un peu l'inverse, vous redonnez aussi la parole aux femmes et le pouvoir de parler de leur sexualité. Peut-être que si on les écoutait plus, on se rendrait compte qu'elles y pensent aussi. En consultation, je reçois beaucoup de femmes qui ne s'autorisent pas à penser au sexe, qui ne s'autorisent pas à avoir une vie sexuelle, libidinale, à parler de leurs fantasmes à leur conjoint. Il y a une vraie interdiction. Et c'est pour ça que pour moi, votre émission est d'utilité publique, c'est qu'elle bat en brèche cette représentation.
Oui, donc en tout cas, moi j'aime bien aussi parler de l'élan vital, qui est cette sorte de pulsion, hein, de désir, d'avoir envie, hein, au sens large du terme. Et finalement, ça c'est essentiel. Et quoi qu'il en soit, il est toujours là, cet élan vital. Sauf que parfois, il est totalement endormi. Il est sous une masse de dossiers, comme si c'était pas raisonnable d'avoir envie de faire des choses, quoi.
Ah oui, mais ce que vous dites est vraiment absolument fondamental, parce que l'élan vital, c'est ce qui anime notre corps, c'est ce qui anime notre pensée. Lorsqu'il n'y a plus d'élan vital, c'est la dépression, c'est la mélancolie. Et la vie sexuelle, ce n'est pas quelque chose d'un gadget, c'est quelque chose de vital. Et lorsqu'il n'y a pas de vie sexuelle, lorsqu'il n'y a pas cet élan vital, nous autres cliniciens, nous sommes inquiets. Et c'est pour ça que lorsque nous rencontrons des nouveaux patients, dès le début, on va voir si la personne est sensible à la chose sexuelle.
Et on sait chez les personnes dépressives justement que la libido est totalement morte. Enfin morte, non, elle n'est pas morte, en tout cas elle est éteinte.
Voilà, inaccessible, coupée du sujet, bien sûr. Bien sûr.
Oui, parce que c'est ça qui est important, c'est de se dire que la libido, elle est en nous, et heureusement, et qu'elle n'est jamais morte, mais que parfois, en effet, elle est totalement inhibée, éteinte, parfois parce qu'il y a eu des mauvaises expériences, parfois parce qu'il y a une morale qui nous empêche d'y avoir accès. Enfin, mais en même temps, on sait que dans un couple, dans une vie à deux, si l'un ne pense qu'à ça et l'autre à sa libido éteinte, c'est quand même problématique. Donc qu'est-ce qu'on peut conseiller déjà dans un premier temps ?
Alors d'abord d'entendre que ça peut être très dur. Ça peut être très dur quand on est justement éteint du côté du désir et qu'on doit supporter les assauts répétés de l'autre. Et puis considérer que c'est pas anodin, c'est jamais anodin lorsqu'il y a une demande qui se fait trop pressante, trop régulière, et qu'on est trop sollicité sur le plan sexuel sans qu'il puisse y avoir justement de satiété sexuelle. Je pense que c'est quelque chose à prendre au sérieux. C'est pour ça que j'ai apprécié que vous choisissiez ce thème pour aujourd'hui, parce que parfois on peut parler de dépendance sexuelle, on peut parler d'addiction sexuelle. Ça arrive.
Oui. Alors, je ne sais pas si vous êtes d'accord, Laurent Carilla, qui vient souvent sur ce sujet de l'addiction, il dit il y a addiction sexuelle quand il y a souffrance. S'il n'y a pas de souffrance, après tout, quelle importance ? On a le droit de se masturber 3 fois par jour, si ça ne fait pas souffrir, si on n'a pas des ampoules aux mains, on peut continuer.
Écoutez, vous et moi, nous sommes synchrones une fois de plus aujourd'hui, puisqu'en préparant l'émission, je suis tombé sur le livre d'Emmanuel Drouet, Désabîmez-moi, où cet auteur, qui est une consoeur, psychologue, parle de sa dépendance sexuelle et de tous les symptômes, et il est préfacé par Laurent Carilla. Et elle est très courageuse parce qu'elle explique bien dans son ouvrage, alors déjà en plus en étant clinicienne elle-même, à quel point c'est difficile de résister face à la compulsion, à quel point on trouve pas de soulagement, à quel point il faut répéter le geste, à quel point elle a conscience des conséquences négatives de l'addiction, mais qu'elle ne va pas pouvoir endiguer cette addiction, et puis le fait que ça lui coûte énormément sans cesse de s'engager dans des rapports sexuels, alors souvent avec des inconnus, avec un sentiment de culpabilité immense. Voilà, donc voilà, la souffrance est souvent là.
C'est intéressant parce que c'est une femme, donc on sait aujourd'hui qu'il y a beaucoup plus de femmes qui parlent de leur addiction sexuelle qu'il y a 50 ans. Donc il y a certainement quelque chose qui se libère non aussi du côté des femmes, même si c'est pas forcément le mieux que de tomber dans l'addiction sexuelle, évidemment. Ce qui est peut-être utile aussi de signaler, c'est que pour l'homme, parfois le sexe est une manière de à la fois de dire je t'aime et de se sentir aimé, ce qui est moins le cas chez les femmes. Vous seriez d'accord avec ça ou pas ?
Oui, il y a peut-être une conduite de réassurance, c'est ce que j'entends dans votre propos, et je pense effectivement que ce n'est pas le même rapport à la complétude, au fait de se sentir complet, réassuré, renarcissisé, et peut-être que justement dans ces conduites compulsives, on peut entendre quelque chose d'une réparation narcissique, et c'est pour ça d'ailleurs qu'elles se répètent, c'est qu'elles ne sont jamais achevées.
Et donc cet homme qui pourrait dire j'ai besoin de faire l'amour, c'est peut-être une angoisse qu'il exprime d'abord, et si on l'entend pas, ça peut provoquer un problème dans le couple.
Absolument.
Parce que certains sexothérapeutes disent, et je suis assez d'accord avec ça, même si c'est pas forcément ma manière de fonctionner, mais les hommes ont besoin de sexe pour aimer, les femmes ont besoin d'aimer pour autour du sexe, c'est ce qui fait que c'est parfois difficile de se comprendre.
Ben, ça rejoint un peu ce que disait Lacan, sommes-nous parlants parce que nous avons une sexualité, ou est-il arrivé à la sexualité quelque chose parce que nous sommes parlants? C'est un peu la même
oui,
formule,
oui,
et c'est
sûr,
exactement ça, c'est aussi le contraste entre notre vie psychique et notre corps.
Sauf que comme c'est Lacan, on comprend rien, mais
absolument.
C'est pas grave.
je vous le fais pas dire. Toujours est-il que, je crois là encore, qu'il faut écouter le discours du corps, comme vous nous y invitez, et pouvoir entendre que parfois, derrière ces demandes sexuelles se cachent en fait des appels à l'aide. Quand c'est 4 fois, 5 fois par jour que la personne n'est pas rassasiée, qu'il y a de l'angoisse, qu'il y a de la culpabilité.
Ce que je constate aussi de la part des hommes, et c'est une très mauvaise stratégie, mais en même temps, je vais donner la réponse de l'action que doit faire la femme. Il y a des hommes qui bandent et qui ont besoin de montrer à leur femme qu'ils bandent. C'est presque je bande donc je suis et je t'aime. Et j'ai toujours envie de répondre aux femmes de bon, ok. C'est pas parce qu'ils bandent que vous êtes obligé d'en faire quelque chose de cette érection.
Tout à fait.
Mais en même temps, c'est un discours aussi c'est un message aussi que l'homme envoie en montrant son érection.
Oui. Et puis il y a cette idée de rester puissant, de se montrer puissant envers toute forme de manque, de lacune. Voilà, se tenir debout.
Oui.
C'est un vrai discours.
On sait à quel point l'impuissance, même si c'est un terme qu'on n'utilise plus beaucoup, est très traumatisante pour un homme.
Tout à fait. Oui. Et puis aussi peut-être l'idée de la solution, c'est-à-dire que souvent ce qu'on sait de la dépendance sexuelle, c'est qu'il y a eu très tôt dans la découverte du sexe quelque chose d'un soulagement qui est apparu et comme une sorte de solution miracle, et les personnes qui s'engagent ou malgré elles dans une dépendance sexuelle vont chercher toujours ce temps de la solution, ce soulagement, mais qui bien sûr ne fonctionne pas parce qu'on a aussi un cerveau, un système hormonal qui va être complètement vidé, pressurisé, et la personne va se retrouver avec des grands moments mélancoliques à utiliser ce biais-là.
En tout cas, on en parle aujourd'hui avec vous sur Sud Radio. À partir de quand peut-on considérer que le sexe est trop présent, ou si vous êtes dans un couple où l'un est un petit peu trop à ne penser qu'à ça, vous pouvez nous appeler au 0826 300 300. On se retrouve dans un instant.
Sud Radio.
Sud Radio.
Parlons vrai.
Parlons vrai.
Sud Radio.
Parlons vrai. Sud Radio Tarbes.
102.
Sud Radio.
Côté libido, vous êtes plutôt romantique, libéré, excentrique, joueur. Rudesplaisirs.com comble toutes vos envies, même les plus intimes. Lingerie sexy, accessoires et jeux coquins, sextoys tendance, huiles et bougies de massage.
Rudesplaisirs.com, plus de 9500 références, les plus grandes marques érotiques au meilleur prix.
Rudesplaisirs.com, le partenaire de vos désirs sexy et plaisirs coquins.
Découvrez notre nouveau showroom à Septèmes-les-Vallons ou passez commande sur Rudesplaisirs.com. Livraison en toute discrétion.
Dans un instant, retour de Brigitte Lahaye, Sud Radio.
Jour 1, amour numéro 1, c'est l'amour suprême. Dis-moi que tu m'aimes. Je veux un jour numéro 2, une suite à l'hôtel, supplément mortel. Je t'ai regardé toute la nuit, danser sur mon âme les plus permis. 9 jours, la vie c'est du velours, et l'éternité, une nécessité. Jour 10, variation du délice, que voudrais-tu faire? Une balade en mer. Chaque jour, dépendance à l'amour, pas de danse autour. C'était un jour sans en avoir l'air, de l'orage dans l'air. Jour 1000, t'as touché dans le 1000, essence térébenthine cachée dans la poitrine. Chaque jour, dépendance à l'amour, pas de danse autour. Celui qui revient, c'est le jour 1, celui qu'on retient, celui qu'on retient, celui qui s'efface quand tu me remplaces, quand tu me retiens, c'est celui qui revient. C'est le jour.
Brigitte Lahaye, Sud Radio.
Samuel Doc est avec nous, psychanalyste, auteur notamment de Éloge indocile de la psychanalyse aux éditions Philippe Ray. Et on retrouve Magali. Bonjour Magali.
Bonjour Brigitte, bonjour Samuel.
Bonjour Magali.
Eh bien, merci pour cette introduction parce que j'avoue que ça, c'est comme des satellites qui ont été percutés parce que j'ai eu plein d'informations et... C'est vrai qu'il y a un quelque chose rapport à Freud que vous avez dit, Samuel, rapport à la bouche. Et je, quand je vous écoutais, je me disais que, en fin de compte, ma bouche, quoi que je fasse, je mets toujours du rouge à lèvres. Parce qu'en fin de compte, je trouve que le sourire, l'entrouverture des lèvres est très, très séduisante et très sexy. Et j'arrive à en jouer. Et je me disais, j'ai fait le rapport avec Freud, comme ça, rapport à ce que vous disiez. Je me disais, finalement, c'est peut-être complètement inconscient, mais je le fais tout le temps.
Voilà, ça me fait sourire. Ça me fait sourire justement parce que figurez-vous, je vais vous faire une confidence, c'est que souvent on croit que les psys on scrute le regard de nos patients pour y lire des informations. Moi, je regarde beaucoup leurs expressions de bouche. Je trouve que la bouche, la manière de sourire, la manière de se pincer les lèvres avec les dents, tout ça, ça nous parle.
Ah oui, et c'est un grand enjeu chez moi en tout cas de séduction mes lèvres. Ah oui, vraiment.
Alors, Samuel va peut-être vous donner une petite interprétation, mais d'abord, je voudrais vous poser une question, Magali. Est-ce que vous mettez du rouge à lèvres si vous êtes toute seule chez vous ?
Oui.
Aussi, toute seule ?
Tout le temps.
Ah, c'est intéressant. Donc, c'est vraiment votre parure, votre masque indispensable.
Exactement. Et même quand je suis à la plage, vraiment rien qu'avec un bikini, je ne suis pas maquillée, mais j'ai un petit gloss ou une couleur sur les lèvres.
Oui, c'est... Voilà. Une sorte de deuxième peau, quoi.
Exactement, un petit bijou de mon... Voilà, un parce bijou. Que je les trouve plus jolies comme ça. Ouais. Et je me trouve plus jolie comme ça.
Ouais. Mais ce qui est intéressant, et c'est ce que j'apprécie, c'est que vous le faites pour vous. C'est-à-dire que moi, je reconnais que si je suis toute seule chez moi, je ne vais pas me maquiller pour mes chiennes. Tandis que vous, vous le faites pour vous. Donc c'est déjà...
C'est pas un maquillage.
Oui, ça signifie déjà autre chose, hein, Samuel
Doc. Oui, et que finalement, le regard, c'est le véritable miroir, le regard que l'on porte sur soi. C'est ça qui nous rassemble, qui nous ressemble. Le regard nous constitue, le regard qu'on porte sur soi. Oui.
Alors, vous savez ce qu'on dit, Magali, mais je suppose que vous le savez. On dit qu'on met du rouge sur nos lèvres parce que c'est les animaux qui, les mammifères femelles, quand elles sont en chaleur, ont la vulve qui rougit et qui grossit. Donc, ce serait une sorte de réflexe archaïque de se mettre quelque chose sur les lèvres et que ça aurait été la première, le premier maquillage qu'aurait découvert les femmes, certainement il y a très 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 longtemps. Vous saviez ça ?
Et je ne savais pas. Alors moi aussi j'ai la vulve qui rougit et qui gonfle, mais pas dans ces circonstances-là. Voilà. Mais ceci dit, je crois qu'à l'époque de Louis XIV, où les filles se mordaient les lèvres pour qu'elles apparaissent plus rougies justement, pour que ça fasse plus séduisant aussi. Je pense que c'est vraiment en entendant ça que moi ça m'a percutée. Et je vous avoue que quand je regarde un homme, je regarde énormément sa bouche, parce que dans son regard et ses lèvres, j'imagine à me dire savoir si il sera un bon amant ou pas. Oh. Sa manière de gesticuler, oui.
Ah oui. Mm-hmm.
Alors, quel est le sourire ou la grimace qui vous permet de penser que c'est un bon amant ?
S'il a les lèvres charnues.
D'accord.
J'adore ça, ce petit mouvement de resserrer les lèvres sur des lèvres qui se repulpent tout de suite quand on les lâche. Je trouve ça très sexy. Mais vous savez, je suis en train de dire ça, mais je viens de le réaliser quand Samuel faisait son introduction. Voilà, en me disant, mais c'est, en fin de compte, j'adore ça, je regarde les gens comme ça, parce qu'il y a quelque chose de très puissant là-dedans. Parce que c'est vrai que moi, je suis une femme qui, effectivement, ne pense qu'à ça. Et j'adore
vous ne pensez qu'à ça, vous ne pensez qu'au sexe, c'est ça?
Oui, oui, bah oui, parce que...
Et visiblement, vous n'avez pas honte, hein.
Je ne sais plus là. Mais en même temps, vous savez que c'est très récent ce que j'assume, le fait d'être sexuée, d'assumer mes envies, d'aimer dire que je fais l'amour plusieurs fois par semaine, peut-être plusieurs fois par jour quand on a du temps, avec différents compagnons, mon chéri compris. Et que ça, je ne l'assume que depuis que j'ai quoi, 40 ans. Auparavant, quand il y avait des discussions entre copines, voilà, et qui disaient « Oui, moi, mon copain, il m'a fait ça, alors du coup, c'est fini le sexe entre nous deux. » Et moi, j'hallucinais toujours en me disant « Mais oh, bah mince, parce que moi, quand je suis fâchée avec mon chéri, au contraire, on va se réconcilier un peu. » Et vous voyez, c'était comme si j'étais toujours en décalage par rapport aux autres.
Moi, j'ai trouvé extraordinaire que vous ayez utilisé deux fois de suite le mot « auparavant ». Pour parler de quelque chose qui, avant, n'était pas si facilement assumé. Ça veut bien dire que le langage est très, très révélateur.
Absolument.
Vous êtes d'accord, en tant que psychanalyste?
Auparavant, un paravent, ce qu'on met devant, bien sûr, bah bravo.
Oui.
Mais le paravent n'est plus là. Le paravent n'est plus là.
Non, mais c'est formidable. Vous avez envoyé le paravent aux encombrants et vous êtes libre maintenant.
Je suis libre, en tout cas, oui. Et je pense que de penser à ça souvent, à la sexualité, à la séduction, à l'envie, au désir, eh bien, en fait, il n'y a aucun retour négatif. Vous voyez, c'est comme si c'était un peu une philosophie de vie. Quand je me promène, je croise quelqu'un, j'ai envie de lui sourire, parce que s'il me renvoie son sourire, je me dirais, tiens, oh, bah, il a l'air sympa. Ou oh, il me trouve jolie, peut-être, dans mon petite tenue de sport. Ou vous voyez, quelque chose...
Mais vous savez, Magali, le fait d'être en accord avec sa libido et son élan vital et son désir, ça rend libre. Et pourquoi les sociétés, les religions ont tellement critiqué la sexualité, c'est parce que ça rend les gens libres. Et des gens libres sont plus difficiles à gouverner que des gens qui ne sont pas libres. Et c'est tout. Il ne faut pas y chercher autre chose que quelque chose de purement... Tout est fait pour nous empêcher d'être libres.
C'est ça. Et vous avez dit tout à l'heure quelque chose de super intéressant.
Quand même, de temps en temps, on arrive à dire des choses intéressantes, Magali.
C'est tout le temps intéressant, mais moi, des fois, ça me percute
plaisante.
Davantage. Oui, mais je sais bien que vous me taquinez. Vous aviez dit qu'un homme se sent homme quand il bande.
Oui.
Eh bien, vous voyez, je vais vous dire quelque chose. C'est ça aussi, c'est quand vous l'avez exprimé que ça m'a percuté, en fait, moi, je me sens femme. Quand un homme me pénètre, je ne me sens pas ni soumise, je ne me sens pas utilisée, je ne me sens pas rendue objet. Non, je
objectivée,
me sens femme.
C'est juste, vous aviez le mot juste.
Ouais. Et ben, je me sens femme, moi. Quand un homme bande pour
mais
moi...
Mais c'est vous qui avez raison, Magali. C'est vous qui avez raison, mais malheureusement, il faut encore avancer. On a beaucoup de travail encore pour libérer les femmes, et malheureusement, actuellement, certaines féministes, je ne vais pas mettre tout le monde dans le même sac, font évidemment le contraire de ce qu'il faudrait faire pour libérer les femmes.
Oui, sans parler du retour de certaines crispations religieuses que je ne citerai pas. Oui, vous avez tout à fait raison, Brigitte.
Donc c'est vous qui avez raison, Magali, continuez comme ça.
Oui. Et alors je vais vous dire peut-être que c'est peut-être moche de dire ça, mais moi c'est la multiplicité des partenaires qui m'a permis de m'épanouir. Parce que en fait, au début, on se voit beaucoup dans l'œil de l'autre qu'on a en face de nous, et si lui il n'est pas ouvert, on n'est pas ouverte. Par contre, si vous rencontrez des gens qui sont comme vous et qui vous ramènent à ce que vous êtes et ce que vous aimez vraiment tout autant que celui qui est en face de vous à vous faire l'amour, eh bien ça, c'est ça qui m'a ouvert les yeux sur cette liberté de femme que j'avais. Alors, il y en a qui vont dire que la fidélité, c'est vraiment un seul partenaire dans toute une vie. Eh bien, moi, je pense que pour être libre, il ne faut pas.
Alors, c'est, vous avez raison et vous avez tort. C'est votre vérité et ouais. Elle est respectable. Et celui qui a besoin de fidélité, il est respectable aussi, vous voyez, Magali. Mais ce qui est important, c'est que vous avez trouvé votre vérité et vous l'assumez. Et moi, j'ai rien à dire. Et si ce n'est merci pour ce témoignage fort pour démarrer cette émission sur le thème de Je ne pense qu'à ça.
Merci.
Samuel Doc,
moi je trouve que c'est, il y a beaucoup de gaieté dans votre voix, dans cette émancipation par rapport à tous les carcans sociaux qu'a nommé Brigitte, et ça fait très plaisir que cette pulsion de vie ouvre notre émission.
Merci beaucoup Magali.
Merci à vous, merci pour tout.
On va faire une petite pause, on va retrouver Fleur Chérie qui va nous dire qu'en effet on penserait deux fois par jour au sexe. Ça va, ça reste raisonnable ça.
Sud Radio Avignon en DAB+, Sud Radio.
Mes inconnus dans les vagues d'ivresse, se retrouver dans une rue, s'endormir dans une pièce, écouter des vieux disques, chanter complètement fou, aimer le goût du risque, choper le dernier métro, parce qu'il y a rien qu'on maîtrise, à part le fait d'improviser.
Brigitte Lahaye, Sud Radio, c'est l'instant Sexy News.
Alors Samuel Doc, je ne sais pas si je vous présente encore Fleur Chérie. Fleur Chérie qui tous les vendredis nous fait sa petite chronique qu'on retrouve évidemment sur union.fr, qu'on peut retrouver également au Sud Paradise pour son spectacle 5 à 7. C'est une pièce que vous avez écrite et qui prouve que vous aussi vous ne pensez qu'à ça.
Exactement. C'est partie des obsédés sexuels.
N'est-ce pas? Et donc vous allez nous parler d'un sondage.
Parce qu'aujourd'hui évidemment on parle de nos pensées sur le sexe et surtout de leur fréquence. Pense-t-on vraiment tant que ça au sexe? Il y avait ce best-seller américain sorti il y a une dizaine d'années, À quoi pensent les hommes quand ils ne pensent pas au sexe, qui était composé de 200 pages de feuilles blanches, démontrant ainsi qu'entre le cerveau et le membre érectile, les neurones sont étroitement connectés. La réalité est bien sûr plus modérée. Il y a donc ce sondage IFOP qui est sorti en début de cette année, qui suggère que nous pensons en moyenne deux fois par jour au sexe. Donc en fonction de cette stat, vous savez si
c'est
obsédé ou pas. Je suis d'accord avec vous. Moi, je trouve ça assez faible. Alors, c'est ce qui est surtout intéressant dans le sondage, c'est qu'avec la même méthodologie, la moyenne était d'1,5 dans les années 2000. Donc, on penserait de plus en plus au sexe, en tout cas sur la méthodologie qu'a appliquée l'IFOP pour ce sondage. Il y aurait aussi une différence entre les hommes et les femmes. Les hommes penseraient 3 fois par jour au sexe contre 1 seule fois pour les femmes. Alors évidemment, comme tout ce qui concerne la pensée, cette étude, elle est à prendre avec des pincettes. Bah oui. Ce que nous dit pas l'étude, c'est la durée et la nature de la pensée sur le sexe. Est-ce que l'on pense au sexe parce qu'on...
Parce que c'était quoi la question en fait?
C'était combien de fois par jour vous pensez au sexe. Donc en fonction de ce que les gens estiment être une pensée, et puis définition est très relative.
C'était vraiment du sexe, sexe quoi.
Voilà, et de quoi il s'agit. Donc est-ce qu'on pense au sexe parce qu'on est excité ou au contraire parce qu'on est angoissé et qu'on nous met la pression pour faire l'amour? Et surtout, est-ce qu'il y a un stimuli qui nous font penser à quelque chose sur le sexe, comme un magazine ou une émission de télé qu'on sera en train de regarder?
Ou un beau mec qui passe.
Ou un beau mec qui passe, pourquoi pas? Ou est-ce que c'est le fruit de notre pensée naturelle quand on rêvasse un petit peu au bureau? Une étude plus sérieuse de 2011, parue dans le Journal of Sex Research, annonçait que les jeunes hommes pensaient 18 fois au sexe par jour, contre 10 fois seulement pour les jeunes femmes. Comme quoi, selon l'âge ou les méthodologies employées, les réponses peuvent radicalement varier.
C'est très variable, oui.
L'étude révélait d'ailleurs que non seulement les jeunes hommes pensaient plus au sexe, mais ils pensent aussi plus à la nourriture et au sommeil. En bref, ils sont beaucoup plus connectés à leurs besoins physiologiques
que les femmes. Vous vouliez réagir
à ça? Non, ça renvoie à ce que je disais sur l'oralité tout à l'heure, donc je rejoins complètement ce que dit Fleur.
Oui. Bon, oui, alors pourquoi pas? Moi, je pense que c'est aussi assez intéressant. Et puis bon, peut-être que les hommes ont aussi plus de besoins calorifiques, donc ils pensent plus au sexe, ils se fatiguent peut-être plus vite, ont plus besoin de repos, j'en sais rien. Mais ça peut faire sens. Personnellement, je trouve assez intéressant que l'on pense de plus en plus au sexe dans un monde où l'on fait de moins en moins l'amour. Comme si la pensée s'était substituée à la pratique. Comme si faire l'amour régulièrement, fréquemment, nous déchargeait la tâche mentale d'y penser. Être obsédé, penser au sexe régulièrement, ne me semble d'ailleurs pas si mal que ça. Cela fait de nous des personnes plus animées, plus créatives, plus vibrantes, des personnes qui attendent sous tension le bon moment, la bonne personne pour pouvoir explorer le temps d'un instant toute leur sensualité.
En tout cas, oui, on peut y penser autant qu'on veut, je ne vois pas où est le problème. Et puis, j'ai quand même envie de rappeler une chose essentielle. Vous savez quel est le mot le plus tapé sur Google?
Sexe, non?
Bah oui, évidemment. Oui. Bien avant Dieu, Allah et je ne sais quoi d'autre. Donc de toute façon, quoi qu'on en dise, ça reste quand même une valeur sûre. Je sais pas.
Oui, ça reste un questionnement. Mais derrière le problème de la pensée sur le sexe, quand, par exemple, on fait des méthodologies de sondage, on ne sait jamais vraiment quelles sont les motivations des gens. Par exemple, sur Google, on peut imaginer qu'évidemment, ça va être du contenu masturbatoire dans une certaine mesure. Et puis, je pense qu'il y a aussi une vraie curiosité. Ce sont des sujets tabous, ce sont des questions qui fascinent et on va se poser des questions sur le sexe, sur lequel on a parfois du mal à mettre du sens. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Donc il y a aussi tous ces questionnements-là et ça veut pas forcément dire qu'on est
obsédé
ou excité en permanence.
Bien sûr.
C'est une interrogation sur soi aussi, je pense. On s'interroge, est-ce qu'on est dans la norme? Est-ce qu'on l'est pas? Est-ce que tout est OK sur notre manière de faire? Mais je vous rejoins complètement. Je pense que quand on tape sexe, il peut y avoir à la fois une recherche d'un film porno, je ne sais quoi, il peut y avoir une question médicale, ça renvoie à beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Et je suis aussi d'accord sur ce glissement entre l'image, la pensée et le corps, parce que c'est vrai qu'on passe tellement de temps sur les écrans aujourd'hui qu'on se décorporéise, pour reprendre l'expression de David Le Breton, l'anthropologue, on perd notre corps sur les réseaux, on est de l'autre côté de l'écran. Donc oui, je rejoins ces observations.
Oui, et puis il faut quand même pas oublier qu'on fait des rêves sexuels, c'est pas toujours fréquent de s'en rappeler peut-être, mais on a parfois même des orgasmes en dormant, donc on est quand même des êtres sexués, quoi qu'en disent certains, et j'ai envie de dire tant mieux, même si aujourd'hui on a séparé la sexualité reproductive de la sexualité ludique, et ça c'est bien aussi. Mais on est quand même des bêtes au départ.
Oui, et puis ça fait partie de notre bon fonctionnement du corps humain, donc je trouve que ces pensées, elles sont très intéressantes. Et qu'il ne faut pas justement les censurer parce que c'est là où la frustration peut réapparaître. Absolument. D'une façon moins sympathique.
Ouais. Absolument.
Faites fonctionner votre imaginaire érotique.
Voilà. Et tant que ça se passe dans la tête, personne ne sera au courant.
Exactement. Et puis, sinon, vous allez voir le spectacle de Fleur Chérie au Sud Paradise, 5 à 7. C'est donc le jeudi soir, hein, si je ne me trompe.
Exactement.
Et ça se trouve 12 rue Marie Stuart, dans le deuxième. Merci beaucoup,
Merci
Fleur.
Beaucoup.
Merci. On continue avec Laurent qui va répondre à 3 questions intimes. Bonjour, Laurent.
Bonjour Brigitte, bonjour Samuel.
Bonjour Laurent.
Alors justement, vous, vous diriez que vous pensez au sexe souvent, pas du tout, très très souvent
Souvent, on va dire souvent. Ouais, souvent. Voilà.
Ben, c'est bien.
Voilà.
C'est bien. Et vous avez, comment dirais-je, vous en parlez ou c'est quelque chose que vous gardez pour vous?
Bah, j'en parle pas forcément, après ça dépend avec qui je suis entouré, mais c'est vrai que ça m'est arrivé déjà d'en parler avec des bonnes connaissances, voilà, mais après pas forcément, je me livre pas facilement non plus. Voilà.
D'accord, donc ça reste quelque chose que vous gardez pour vous, et pourquoi pas, hein, y a pas de... Deuxième question, est-ce que depuis MeToo, vous arrivez encore à draguer ou plus du tout?
On va dire que faut draguer. Non, mais après, j'ai jamais eu cette pensée.
Séduire, alors, je vais dire. Ouais, est-ce que vous arrivez est-ce que vous séduisez différemment depuis MeToo?
Oui, différemment, peut-être, ouais. Je vais dire. Différemment, on va dire. Mais j'ai toujours été resté dans la politesse et dans le. Alors, ça n'a pas trop changé pour moi, en fait.
D'accord, vous étiez déjà.
Dans le consentement, dans le chercher, voilà. J'ai toujours. Jamais un peu forcé de le faire, on va dire.
Ben, j'espère bien, mais en même temps, même ceux qui étaient dans le consentement, aujourd'hui, ils sont parfois devenus plus prudents. Hein. Mais c'est
sûr.
Bref, troisième question, et puis après, vous pourrez en poser une à Samuel Doc. Est-ce que vous pourriez me raconter un fantasme secret? Je vous pousse un peu
un
dans
secret,
vos retranchements.
Ça va être entre nous, alors.
Mais complètement entre nous.
Ah bon, fantasme secret.
Faites rougir mes oreilles.
je sais pas, d'être dans une soirée, on va dire,
oui.
Où il y a une fille qui me choisit parmi le public, entre guillemets, c'est un fantasme, hein, et qui repousse tous les autres, quoi.
Ah oui.
Voilà, mais après, ouais, c'est un fantasme.
Mais c'est bien, non, mais c'est. Bravo, Laurent, parce que c'est un fantasme et c'est bien de l'exprimer finalement assez clairement. Non, c'est bien. Il faut oser. Un fantasme, c'est pas forcément quelque chose qui est très sexuel, hein. C'est d'être l'élu dans une soirée où il y a plein d'hommes et c'est une femme la plus belle qui vous choisit, vous. C'est un super fantasme, c'est bien. Eh bien, vous pouvez poser une question, Samuel Doc vous écoute.
Alors, Samuel, qu'est-ce que une fréquence, une fréquence de pensée sexuelle, ça serait quoi, entre guillemets, si on pense un danger, un niveau que ça serait maladif, quoi?
Ça rejoint. Oui. À quel moment en fait la pensée devient problématique
obsédante.
Et ça rejoint, voilà, obsédante. Ça rejoint effectivement l'introduction de Brigitte. Moi, je crois, mais c'est à explorer. Je crois que ça devient lorsque la pensée devient un écran. Et qu'elle empêche en fait les autres pensées qui vous permettent de faire votre travail, d'être en lien avec les autres, à partir du moment où la pensée devient obstacle, et surtout à partir du moment, et là c'est plus important, où la pensée va engendrer la compulsion. C'est-à-dire à partir de ce moment où cette pensée, vous allez essayer de la chasser, vous allez essayer de la repousser, et ça va pas être possible, elle va s'inscrire, elle va parasiter le reste de votre vie psychique, et elle ne pourra disparaître qu'à partir du moment où vous aurez eu un rapport sexuel et où il y aura eu un soulagement. Là, on est vraiment dans quelque chose de l'ordre de la compulsion, avec, c'est-à-dire une tentative de repousser à distance un contenu psychique, mais ça ne fonctionne pas, ça l'inscrit, et il faut un passage à l'acte pour pouvoir s'en départir. Là, pour moi, on est dans quelque chose qui s'apparente à ce que Emmanuel Drouet, dans son livre Désabîmez-moi, décrit, c'est-à-dire une addiction sexuelle, une dépendance sexuelle.
Oui, par exemple, Laurent, si quelqu'un, dès qu'il reprend son téléphone, va pas systématiquement aller sur un site pornographique ou sur des images qui sont... Bon, là, c'est problématique.
Ah non, mais ça, c'est ça. Ça peut aller très loin. Hein. Moi, j'avais un patient qui souffrait de cette dépendance sexuelle. Je veux dire, il s'était mutilé, hein, le pénis, à force de se masturber. On en est là, une vraie dépendance sexuelle. La personne se blesse.
Ça me fait sourire, mais c'est pas drôle.
C'était vraiment un terrible et il avait vraiment fallu même un traitement. Et puis, il y a aussi, je crois que c'est important, très important, Brigitte, de le dire pour nos auditeurs, c'est que dans certains cas, il y a aussi des critères hormonologiques. C'est pas forcément psychopathologique. On sait que dans le cas de certaines hyperthyroïdies, oui, par exemple, il peut y avoir comme ça une hypersexualisation. Et ça, c'est important. Je me rappelle d'un cas à l'hôpital dans lequel je travaillais où c'était un enfant qui vraiment, mimait des actes sexuels sur son frère. On s'est rendu compte qu'il y avait, en permanence, on s'est rendu compte qu'il y avait un vrai, vrai, vrai problème de thyroïde, qu'il a dû être opéré. Et là, les choses sont rentrées dans l'ordre. Donc parfois, il y a des critères médicaux qui méritent d'être investigués.
Mais ça reste un sujet un peu tabou, hein, de toute façon, Samuel Doc. On va pas parler à son meilleur ami de cette compulsion d'addiction sexuelle.
Hein. Ah oui, 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 c'est
même,
extrêmement
même à son
jugé.
Meilleur ami. Hein.
Ah non, c'est très jugé. Encore plus quand on est une femme. Je pense qu'on est encore plus aisément jugé sur ce sujet-là. Alors même que la personne est très seule, très coupée dans son vécu de culpabilité. Je pense à une patiente que j'avais qui, elle, pouvait avoir un rapport sexuel et 2 heures après, il fallait qu'elle recommence parce que l'angoisse était trop forte. Une vraie dépendance sexuelle, ça mène à une douleur mentale qui est énorme. Oui.
Oui,
donc
oui.
La question de Laurent est précieuse.
Et une prise de risque aussi parce que très souvent, ces personnes-là
Absolument.
Ne se protègent pas.
Absolument.
Et donc, comme elles ont en plus beaucoup de partenaires, le risque d'avoir une IST est tout à fait augmente énormément. Oui.
La répétition rend beaucoup moins prudent, tout à fait.
Oui. Donc c'est important. En tout cas, c'était une bonne question, Laurent.
Oui. Hein,
merci de l'avoir posée. On va faire une petite pause, Samuel Doc. Et puis, si vous êtes dans le cas que vient de décrire Samuel, hein, si vous êtes vraiment, si vous ne pensez vraiment qu'à ça, c'est peut-être bien de nous appeler. Samuel pourra peut-être vous guider, vous donner quelques conseils. On se retrouve dans un instant sur Sud Radio 0826 300 300. À tout de suite.
Sud Radio Le Puy-en-Velay.
91.
Sud Radio.
Sur le dos, je me refais le film. Le début était beau, puis je t'imagine jouer sur ton piano une mélodie. Expire dans un écho, j'ai tout gâché. Je sais, j'ai tout gâché. Je ne peux pas oublier ton cul et le grain de beauté perdu sur ton pouce et la peau. Le reste, je te le laisse, mais je retiens en laisse le souvenir ému de ton corps nu. Le reste, je te le laisse. 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 Je te sens au loin, chasser mon souvenir. Palpite encore, qui va bientôt mourir. Est-ce mon pauvre cœur qui a tout inventé? Étais-tu ici? M'as-tu au moins aimé? J'ai tout gâché. Je sais, j'ai tout gâché. Le reste, je te le laisse. Perdu sous ton pouce et la peau de ton dos. Le reste, je te le laisse, mais je retiens en laisse le souvenir ému de ton corps nu. Je reste amoureuse d'une idée qui s'éteint, figée à jamais dans un miroir sans teint, d'où je te regarde t'en sortir à merveille, épier ton bonheur. Me le rend moins cruel, reste.
reste, je te le laisse. Le reste, je te le laisse. Le reste, je te le laisse. Perdu sur ton pouce et la peau de ton dos. Le reste, je te le laisse, mais je retiens en laisse le souvenir ému de ton corps nu. Le reste, je te le laisse. Le reste, je te le laisse.
Cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes.
14h-16h, Brigitte Lahaye, Sud Radio.
Notre émission aujourd'hui, c'est un peu « Je ne pense qu'à ça ». Samuel Doc est avec nous, vous êtes psychanalyste et vous venez de nous dire à quel point, oui, ça peut être une vraie souffrance. Hein. On en rit comme ça, mais ça peut être une vraie souffrance de ne penser qu'à ça, à partir du moment, évidemment, où on est dans l'addiction. On continue avec vous, Valérie, bonjour.
Bonjour Brigitte et bonjour Samuel.
Bonjour Valérie.
Donc vous pensez énormément au sexe, mais visiblement vous n'êtes pas dans l'addiction.
Alors non pas, non, je dirais pas que je suis dans l'addiction, pas du tout.
Ça vous fait pas souffrir de...
Non, bon, voilà. quoique.
Ah bon?
Oui, moi je vis les choses différemment, parce que je suis quelqu'un qui a une libido... assez développé, mais qui vit avec quelqu'un qui est tout à l'opposé.
Ah.
Donc, qui n'est pas du tout sexe.
Et bah pourquoi vous l'avez choisi, Valérie ?
Parce qu'à l'époque, alors je me suis longtemps posé la question, et je pense que c'était l'horloge de maman qui a sonné.
Ah, c'est un bon papa.
Avant la femme.
Ouais,
voilà.
Ouais.
Et quand la, quand bah, la
c'est
période...
Une, maman... C'est une excellente réponse, hein, Valérie.
Et oui, et quand la période maman avec les tétés, etc., a été assouvie, la période femme a repris le dessus. Et là, effectivement, on prend conscience que finalement, l'appétit n'est pas le même des deux côtés. Donc, j'ai essayé beaucoup de beaucoup parler, d'essayer d'amener les conversations, etc., sur le sujet pour... faire comprendre que ça n'était pas suffisant. Et puis, à un moment, au final, j'ai choisi une autre voie qui est celle d'être libertine toute seule.
D'accord.
Ce qui me permet, donc c'est ma deuxième petite vie, à la maman d'un côté et puis la libertine de l'autre côté. Ce qui me permet
d'assouvir vos besoins tant que voilà. Vous voulez, etc. Et vous en avez parlé avec lui ou vous avez préféré ne pas lui en parler?
Pas du tout. Ah non, ouais. Lui c'est très catho, la prière. Non.
Vous avez eu raison. Moi, vous savez, j'ai tendance, je rappelle toujours que dans le mot adultère, il y a le mot terre. Et je trouve que parfois, on n'a pas. Alors, je sais qu'il y a des psys qui sont à l'opposé de moi, mais moi, j'ai toujours pensé qu'on peut très bien le taire, justement.
Alors moi, mon principe, c'est que. J'ai fait le choix effectivement d'avoir des enfants, donc ils n'ont pas à subir le fait de forcément me séparer, etc. Donc ça, ils n'ont rien demandé. De la même manière que si lui fait le choix de ne pas m'entendre sur mon appétit, parce que je ne vais pas mentir, hein, quand je joue dans le monde du libertinage, ça peut être un monsieur, deux, trois, c'est pas voilà, c'est-à-dire ça, je peux jouer très facilement et peut-être pas forcément être toujours rassasié, mais bon, en tout cas, voilà, on va dire que j'ai un appétit. Dans le même temps, c'est pas aux enfants de subir ça, quoi qu'il arrive. Et dans le même temps, j'estime que j'ai pas non plus à subir le fait que lui, justement, n'a pas d'appétit. Et moi, de m'oublier, entre guillemets, en tant que femme, Le but, simplement, pour moi, c'est de ne faire de mal à personne sur cette
route-là. Oui, bien sûr, mais vous avez... Ouais. Enfin, je veux dire, c'est ce que vous dites est très responsable, Valérie. Après, chacun met sa morale où il veut. Mais moi, je vous trouve responsable. C'est-à-dire que vous avez choisi un homme pour créer une famille. Et pour vous, c'est important que cette famille, elle tienne debout. Bon, je suppose que vous entendez bien et que vous formez une bonne famille. Et puis, à un moment donné, c'est ce que je dis souvent, soit on se sent coupable vis-à-vis de soi-même parce qu'on ne s'accorde pas à ce qui est essentiel, soit on se sent coupable vis-à-vis de l'autre, mais de toute façon, quoi qu'on fasse, on est toujours en rapport avec des choix à faire et qui peuvent parfois... Vous auriez accepté de respecter la fidélité, vous vous sentiriez coupable vis-à-vis de vous-même et peut-être que la culpabilité vis-à-vis de lui est plus facile à vivre. Moi, j'ai un peu envie de rappeler ça. Oui, je vous en prie, allez-y.
Je dois vous avouer que j'ai essayé de respecter entre guillemets, la fidélité.
Le prix à payer était trop fort.
Vu la collection de jouets que j'ai, c'est effectivement un prix qui commence à devenir...
Au sens propre.
Vous avez de l'humour, bravo Valérie.
Voilà, donc à un moment donné, je me suis dit que finalement... Et c'est là où on voit qu'en fait, effectivement, le sexe, le fait de compenser les besoins, les envies, alors sans non plus dire que j'ai la masturbation compulsive, bien évidemment.
Mais non, j'entends bien.
Quand le clitoris commence à clignoter, là, on se dit que il faut faire quelque chose. Mais à un moment donné, ça assouvit rapidement, comme ça, voilà. Mais malgré tout, il manque quelque chose, donc c'est pas non plus suffisant.
Mais non, mais de toute façon, il est certain que quand on est dans une relation de couple et qu'il n'y a pas ce besoin, que ce soit un besoin sexuel ou autre d'ailleurs, qui n'est pas assouvi, il y a quand même un peu de souffrance. Après, on peut évidemment l'assouvir ailleurs, ce besoin manquant dans le couple, mais...
C'est là qu'il reste dans la tête et qu'on pense qu'à ça, parce qu'à un moment donné, c'est présent.
Oui, et puis ça aurait peut-être détruit votre couple en finale, donc... qu'est-ce que vous avez envie de dire, Samuel Doc?
Je vous rejoins complètement. Ce que j'apprécie beaucoup dans votre témoignage, Valérie, c'est que vous avez trouvé un compromis. Un compromis qui fonctionne, un système où vous ne blessez personne et où vous ne vous blessez pas vous-même. Parce que ce serait intenable, ce serait anxiogène que de vivre avec des pulsions insatisfaites. Et Freud, là encore, j'y reviens, l'expliquait très bien. Il expliquait que l'angoisse, c'est la libido qui reflue sur le moi, faute de trouver un objet de satisfaction. Et d'ailleurs, je pense qu'il aurait approuvé ce que vous disiez sur la société, Brigitte, qui empêche de réaliser ses pulsions. Donc Valérie, je crois que vous donnez un bon exemple à nos auditeurs en disant qu'on s'en sort comme on peut, en essayant de ne pas faire aux autres ce qu'on n'aimerait pas qu'on nous fasse, mais en essayant de trouver son propre chemin vers le plaisir, vers la pulsion de vie, vers la gaieté. Donc bravo pour ça. Et d'ailleurs, ça s'entend dans votre voix, je trouve. Je rejoins quand Brigitte a dit que vous aviez de l'humour. Je trouve qu'il y a quelque chose de très solaire chez vous.
Merci, c'est gentil.
Oui.
Je vous confirme, je le suis.
Voilà, j'ai eu de l'intuition.
Oui, bien sûr. Et alors, comment vous faites? Vous allez en club l'après-midi, j'imagine?
Alors, je peux aller en club, là, effectivement, l'après-midi. J'ai mes petites habitudes. Je suis aussi sur un site...
D'accord, oui, bien sûr. C'est vrai qu'avec les sites aujourd'hui, c'est facile.
Voilà, sur un site libertin. Donc, ça veut dire que les personnes qui sont en face, effectivement... Comme on dit, chacun sait pourquoi il est là, donc il n'y a pas non plus de tricherie par rapport aux personnes qui peuvent être rencontrées.
Et c'est important pour vous de plutôt faire l'amour avec des amants de passage plutôt que d'avoir par exemple un amant?
Ah mais j'ai les deux.
Ah pardon.
En fait, quitte à faire.
Tant qu'à faire.
Non, je suis une libertine avec mon complice régulier.
D'accord.
Et voilà, donc... Je pense qu'en fait, ne serait-ce que pour la vie quotidienne, en fait, c'est aussi important d'être, d'avoir des plaisirs qui sont assouvis, de vivre pleinement ce qu'on a envie de vivre. Quand dans votre thématique, vous demandez comment calmer un partenaire qui ne pense qu'à ça, il faut lui donner à manger. Donc à un moment donné. Quand c'est pas suffisant ou quand c'est pas assez souvent. Bon, après, c'est pas non plus tous les deux jours, on va pas non plus exagérer, mais...
Vous diriez quoi? Vous avez besoin d'avoir une relation sexuelle combien de fois par semaine?
Alors, si c'est que moi, c'est deux fois par jour. Ça peut être tous les jours.
Non, mais...
Si on me demande à moi, aujourd'hui...
Oui, mais Il faut quoi au moins pour que vous arriviez à survivre?
Ah, là, en ce moment, si je fais, par exemple, une fois par semaine avec mon complice et que, entre-temps, je m'amuse à la maison un peu toute seule, ça va très bien.
D'accord.
J'ai les moments où je me connais et c'est parfait. Et puis, les moments où on joue, auquel cas, forcément, ça devient différent. C'est un petit rythme, en fait, que j'ai trouvé. Si, bien évidemment, la scène idéale aurait voulu que j'ai un partenaire qui est aussi fin que moi et...
Mais ça aurait peut-être pas formé une bonne famille, voilà. Mais vous faites encore l'amour avec votre mari ou pas? D'accord. Joker.
Il fait l'amour avec lui-même, on va dire.
Ah oui, parce qu'en plus c'est pas un très bon amant. Oui.
Non, bah pas du tout, non. Et en fait, je me suis posé souvent la question: est-ce que je suis un jour une insatiable ou est-ce que je serai un jour rassasiée? Mais en fait, je me dis, le fait de ne pas être satisfaite, on va dire, si dans le lit, j'avais ce qu'il fallait tous les soirs, je pense qu'à un moment donné, peut-être que l'appétit serait moins...
C'est possible, hein, c'est possible. Voilà. Le fait d'être un peu frustré peut provoquer une envie plus forte d'aller...
Bien sûr. On est d'accord. Bien sûr, le manque est le pilier du désir, tout à fait, Brigitte.
Oui. Écoutez, Valérie, vous êtes assez lucide sur vous-même, bravo.
Merci. Ben, je m'assume en fait, hein, je m'assume.
Ça évite quelque part de votre mari de subir ce qui serait une irritabilité, une angoisse, une anxiété. Si vous n'étiez pas satisfaite, vous trouvez aussi une manière de faire tenir votre relation avec votre conjoint.
Et ce que je trouve intéressant aussi dans le témoignage de Valérie, que je remercie beaucoup, c'est qu'aujourd'hui, plus de femmes osent s'assumer de cette manière-là, ce qui n'était peut-être pas le cas il y a une trentaine d'années. Et ça, c'est quand même aussi une belle évolution pour les femmes.
Oui, ah oui.
Merci beaucoup Valérie. On va continuer évidemment dans cette deuxième heure à évoquer la sexualité intensive, hein, les besoins sexuels. Et je crois qu'il n'y a pas de jugement évidemment ni de la part de Samuel ni de moi-même. Vous l'imaginez bien. Donc n'hésitez pas si vous avez envie de témoigner au 0826 300 300. Et on parlera également un petit peu des mémoires familiales. Ça intéressera certainement aussi notre psychanalyste Samuel Doc. Mais d'abord, avant les infos, je voudrais vous proposer une petite devinette, Samuel Doc. Ne me regardez pas comme ça. Il n'y a pas de punition si vous ne trouvez pas la réponse.
Dommage.
Elle est pour vous, cette devinette. Quel est l'anagramme de libido? Vous avez le temps des infos pour trouver l'anagramme de libido. Moi, ça m'amuse beaucoup. C'est moi qui l'ai trouvé, hein, cet anagramme. J'en suis très, très fière. La réponse, c'est après les infos.
Sud Radio Anglette.
103.9.
Sud Radio.
De mon amour, je te donne la totalité. Mes arrivées, mes départs, la dualité.
De mes virages, mes ratures, quand j'envisage en démesure. De mes douleurs, de mes joies, la réalité.
Si tu veux bien ma moitié, moi je te donne ma totalité. Si tu veux bien ma moitié, moi je te donne ma totalité. Tu sais, je vais tout tenter. Et je te donne la totalité. Si tu veux bien ma moitié, moi je te donne ma totalité. Oh, oh, oh. Moi je te donne ma totalité. Oh, oh, oh. Moi je te donne ma totalité.
De tous mes torts, je te donne la totalité. Tous mes défauts, j'en ai pas en réalité.
Tous mes mensonges, mes humeurs, mes envols, être ailleurs. Je suis sûr de mes doutes, la complexité. Si tu veux bien ma moitié, moi je te donne ma totalité. Si tu veux bien ma moitié, moi je te donne ma totalité. Tu sais, je vais tout tenter. Et je te donne la totalité. Si tu veux bien ma moitié, moi je te donne ma totalité. Oh, moi je te donne ma totalité. Oh, oh, oh. Moi je te donne ma totalité. Tota, totalité. Tota, totalité. Tota, totalité. Tota, totalité. Si tu veux bien ma moitié, moi je te donne ma totalité. Si tu veux bien ma moitié, moi je te donne ma totalité. Tu sais je vais tout tenter, et je te donne la totalité. Si tu veux bien ma moitié, moi je te donne ma totalité. Oh, oh, oh. Moi je te donne ma totalité.